Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui témoignage dingue, j'ai accouché seul à la maison de mes jumeaux. Allez, je le redis parce que je pense que vous ne l'avez pas intégré, j'ai accouché seul à la maison de mes jumeaux. Vous ne me croyez pas? Eh bien on écoute le témoignage, c'est parti.
Accoucher seul, c'est quand même très très rare, je vous rassure, sauf exception, sauf concours de circonstances. Mais accoucher seul de jumeaux dans une salle au cœur même de la maternité, là ça devient totalement improbable et c'est pourtant ce qu'a vécu Stéphanie il y a un an. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Stéphanie, histoire dingue. Merci de partager cette aventure incroyable. Je précise évidemment que tout le monde se porte très très bien, etc. Donc plus de peur que de mal, mais enfin...
C'est ça.
Effectivement, il y a eu de la flip. Alors, vous étiez déjà maman d'Axel, qui avait un peu plus de 2 ans et demi, quand, en avril 2020, vous apprenez que vous êtes enceinte de jumeaux. Une grossesse qui est forcément un petit peu plus suivie qu'une grossesse d'un seul enfant. Quel genre d'accouchement vous imaginez? Et surtout, à quel genre d'accouchement vous vous préparez avec les médecins, quoi, tout simplement?
Alors, on m'avait tout de suite dit que j'allais être déclenchée, qu'on n'allait pas me laisser aller jusqu'à la fin de grossesse. Et que du coup, j'allais être déclenchée à 36 SA. Et ensuite, on m'a dit que j'aurais une très, très grosse équipe, contrairement à mon premier accouchement. Donc, 2 sages-femmes, 1 obstétricien, 2 auxiliaires. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée de mon accouchement, on a appris que le deuxième bébé était en siège et que du coup, j'aurais pas poussé pour le deuxième bébé. Et puis, avec les circonstances de l'époque, on m'avait dit que le papa ne pourrait pas être là pendant le travail, mais lors de la poussée.
Bon, voilà. Alors le 12 novembre 2020, à 36 semaines d'aménorrhée, votre conjoint vous dépose à la maternité donc à 13h pour le déclenchement voilà. Comme c'est prévu. Il y a beaucoup de femmes qui accouchent ce jour-là, l'attente est longue et tout. Vers 15h, on vous pose le fameux ballonnet qui permet de faire maturer le col. Et puis après, il y a eu quand même des contractions assez rapidement.
Alors oui, en fin de compte, vers 17h, je suis au téléphone avec mon conjoint. Et pour le tenir au courant de l'avancée des choses. Et au fur et à mesure qu'on parle, on se rend compte que voilà, les contractions sont de toutes les 7 minutes. Donc de là, il me dit « Bon, comment tu te sens ?» Moi, personnellement, je n'avais pas si mal que ça. Donc je me dis « Bon, on laisse les choses avancer, puis on verra au fur et à mesure.
Vers 19h30, vous informe qu'on vous prépare une chambre. Est-ce que les contractions étaient un peu plus rapprochées, là, déjà?
Alors là, elles étaient déjà plus intenses. Et pareil, mon conjoint compte et il me dit, là, elles sont passées quand même de toutes les 7 minutes à 4 minutes. Et il me dit, sonne pour les informer, ce que je fais. Mm-hmm. Et au final, personne ne vient. Et moi, je me dis que c'est parce qu'elles sont très, très occupées avec le monde qu'il y a ce jour-là. Et je ne m'inquiète pas plus que ça. Et à côté, j'arrive à supporter mes contractions. Donc,
on vous dit, de toute façon, si elles ne viennent pas, c'est qu'elles ne sont pas inquiètes pour moi, que ça ne doit pas être le moment. Une heure plus tard, quand même, la douleur devient un petit peu plus difficile. Donc, vous partez chercher quelqu'un dans le couloir. Toutes les sages-femmes, comme vous vous en doutiez, sont occupées, parce que c'est donc un jour où il y a beaucoup d'accouchements. Il y a une infirmière qui passe, qui vous dit, vous inquiétez pas, je vous passe le message, etc. On vient vous voir une heure plus tard. Là, on vous examine, j'imagine?
Non, non, du tout. Elle me dit qu'elle ne peut pas s'occuper de moi, en fait, à l'instant. Parce que voilà, elle est occupée avec plein d'autres femmes qui attendent pour accoucher, que les salles de travail sont prises et qu'elle s'occupe d'abord des femmes qui attendent pour pouvoir me faire passer en salle de travail. Et du coup, elle me propose un ballon et d'aller sous la douche pour pouvoir supporter les contractions.
Et ça vous soulage, cette douche?
Ça m'aide, en fait. Ça m'aide à tenir. Mais en fait, moi, je me rends compte que les contractions sont très, très rapprochées à ce moment-là. Et à chaque contraction, j'ai l'impression que je vais accoucher.
Mais à quel moment, à quel moment du travail est-ce que vous sentez que vous êtes? Là, si vous vous écoutez, vous vous dites, mais j'en suis où?
Pour moi, je me dis, elles sont très, très fortes. Mais en même temps, je me dis, c'est une grossesse gémellaire. C'est pour ça qu'elles sont très fortes. Et je suis persuadée que je suis au début du travail.
C'est ça. Et donc, vous ne dites pas du tout que vous allez accoucher.
Non, du tout.
Vers 23h30, la sage-femme revient. Est-ce que cette fois, elle vous ausculte?
Alors, cette fois, elle me dit oui, venez, je vais vous ausculter. Et donc, elle m'invite à passer de la salle de bain au lit. Mm-hmm. Et en fait, chaque pas que je fais, j'ai une contraction, j'ai énormément de mal à avancer. Elle s'en rend compte et elle me demande l'intervalle de mes contractions. Et impossible de lui répondre. Parce que j'avais
tellement
pas du
rapproché,
tout,
en fait.
Et puis, j'avais pas du tout l'heure avec moi. Et de là, elle m'ausculte. Le ballonnet, en fait, lâche et elle voit que je suis à 3.
Donc trois, bon, j'imagine qu'elle s'agite pas plus que ça, trois.
Non, elle me dit qu'elle va préparer la salle et d'appeler mon conjoint, puisque du coup, il peut venir à ce
D'accord.
moment-là.
Et elle vous dit qu'elle va venir vous chercher et que vous allez bientôt accoucher, j'imagine, qu'elle prépare la salle d'accouchement.
C'est ça.
Alors, pendant que la sage-femme donc, prépare tout ça, vous appelez votre conjoint, et là, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je l'appelle, je lui dis qu'il peut venir tout de suite. Et pendant que je lui parle, j'ai une énorme contraction qui me coupe le souffle, et je raccroche, du coup. Je lui dis que je ne peux plus parler, je raccroche.
Donc, voilà. Vous êtes là, à ce moment-là, dans la salle de bain, c'est ça ?
Non, je suis à côté, en fait, à côté du lit, il y avait un petit lavabo. Mm-hmm. Et je suis appuyée sur le lavabo pour supporter mes contractions.
Donc, vous êtes agrippée à ce lavabo, en train de souffrir comme je ne sais pas quoi. Évidemment, vous n'avez pas de péridurale. Non. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Il se passe que, du coup, je perce la première poche des os avec une contraction. Et du coup, j'ai une énorme envie de pousser. Et là, je sens la tête de mon premier bébé qui sort.
Et donc là, j'imagine que, premier réflexe, vous sonnez.
Je sonne, je tends la main, je sonne. Je me dis qu'elles vont arriver. Et en fin de compte, du coup, bah, non, je me mets à pousser toute seule.
Vous ne pouvez pas vous empêcher de pousser ?
Non.
Impossible. Et là, alors, le bébé sort ?
Le bébé sort. J'arrive à l'attraper avec les deux mains.
Oh là là.
Et du coup, bah, là, je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai une hallucination. Pour moi, je n'y crois pas
du tout. Vous continuez à sonner comme une malade et tout ?
C'est ça, en fait, je retends la main. Et en même temps, je ne sais pas, je n'arrive pas à y croire.
Oui, c'est ça, j'arrive vous êtes totalement choquée,
voilà,
en fait.
Je me dis que la douleur est tellement forte que voilà, je rêve.
Oui, c'est ça. Alors, vous avez donc un bébé dans la main, avec le cordon, tout
c'est
ça.
C'est ça.
Et là, tout à coup, une autre contraction.
Oui, une autre contraction, deuxième poche des os qui perce. Et je pense que je reviens à la réalité, je me dis, prépare-toi, le deuxième va sortir. Et effectivement, je me mets à pousser.
Et là, vous vous dites, ah mon Dieu, j'avais oublié, mais il est en siège ou pas ? Vous y
pensez ? En fait, j'y pense pas sur le coup, mais du coup, quand je tends la main, je tiens mon premier bébé avec la main gauche, je tends ma main droite et je sens ses fesses.
Oh, c'est un truc de fou.
Voilà.
Comment est-ce que vous avez réussi à les attraper d'une seule main, là, comme ça ?
Je pense que...
Vous savez pas.
Ouais, je pourrais pas l'expliquer, mais c'est l'instinct, il me semble.
Donc vous êtes, parce qu'il faut s'imaginer quand même la scène, vous êtes debout, devant un lavabo, avec un bébé dans chaque main, qui sont reliés à leur placenta, qui n'est pas sorti. Est-ce que vous pouvez bouger à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à sonner ? Enfin non, vous ne pouvez pas, parce que vous avez que le menton pour
Du coup, j'ai les deux bébés dans les mains, et je n'ose pas du tout bouger, parce qu'il y a du liquide amniotique partout, je me dis que je vais glisser. Et en fait, le temps de réaliser, il se passe quelques secondes, et là, je me dis, en fait, Stéphanie, je pense qu'il faut crier,
ouais, c'est ça.
Puisqu'elles ne sont toujours pas arrivées. Et je me mets à crier à l'aide en disant que mes bébés sont nés, de venir m'aider. Voilà.
Et il y a quelqu'un qui arrive ?
Il y a quelqu'un qui finit par arriver, qui me demande d'ailleurs pourquoi j'appelle. Et elle se rend compte tout de suite que voilà, c'est une situation d'urgence et elle appelle du renfort.
Donc elle a compris évidemment que la sonnette ne marchait pas ?
En fin de compte, quand elles reviennent, oui, elles comprennent que la sonnette ne marche pas. Et voilà.
Alors elles ont pris vos bébés en charge ?
Oui.
Vous êtes dans quel état à ce moment-là ?
Alors moi, en fait, à partir du moment qu'elles ont pris mes bébés en charge, je pense que je relâche toute la panique que j'avais. Et j'ai du mal à respirer. Et en fin de compte aussi, à côté de ça, je fais la connaissance des contractions post-accouchement, puisque je n'avais pas encore fait ma délivrance. Donc là, du coup, elles me prennent en charge à mon tour.
Bon, bah écoutez. Alors, premier jumeau, Loen, qui pesait 2,2 kg. Le second, Eden, 1,8 kg. Vous avez eu des déchirures à cause de ces naissances express. Oui. Donc, voilà, il a fallu faire quelques soins.
Oui.
Et là, votre conjoint a pu venir quand même.
C'est ça. À ce moment-là, au moment où ils vont me faire mes soins, mon conjoint pousse la porte avec un grand sourire. Et je me dis, je pense qu'il s'attend à assister à l'accouchement. Et d'ailleurs, c'était le cas. Et du coup, tout de suite, je lui dis, ils sont là, il ne comprend pas. Et là, les soignantes se poussent et lui montrent les bébés dans la couveuse. Et il me demande ce qui s'est passé et je suis incapable de lui expliquer.
Alors après ces soins, vos bébés sont partis en néonat pendant une semaine. Est-ce que vous avez du coup pu débriefer avec l'équipe ce qui avait pu se passer ?
Alors, les trois premiers jours, en fait, je racontais l'accouchement à mes proches, à l'équipe soignante en néonat. Comme si ce n'était pas moi qui l'avais vécu. Je ne réalisais pas. Et au fur et à mesure, je me suis quand même posé des questions, je faisais des cauchemars, et j'ai ressenti en fait le besoin d'en parler. Et de là est tout de suite arrivée l'aide sociale, oui. Et après, j'ai vu la psy, et ensuite la chef du bloc.
D'accord.
Voilà.
Donc, vous avez pu quand même faire le film à l'envers.
Oui.
Parce que j'imagine que c'est un choc. C'est digéré aujourd'hui, cet accouchement ?
Aujourd'hui, oui, ça va. Ça fait partie de mon histoire avec mes enfants. Et puis, en même temps, je suis très, très fière d'avoir pu faire ça.
Bonjour Thierry Hervet, quel bonjour bonheur Agathe. De vous avoir sur ce plateau. Vous êtes gynécologue obstétricien, chef de service de la maternité des Diaconesses à Paris. Ouais. On prévoyait à Stéphanie un déclenchement long, une péridurale posée tôt. Alors moi, ce qui me pose question, c'est comment est-ce qu'on explique que le col est dilaté à 3 et 10 minutes après, il y a la naissance des deux bébés.
Elle avait déjà accouché une première fois, donc c'est pas la même chose quand une personne n'a jamais accouché et qu'elle a déjà accouché. Elle a signalé que la fois d'avant, ça s'était passé assez vite. On a tous, chez des deuxièmes parts, des histoires comme ça. On doit rester extrêmement vigilant. La dilatation peut se faire extrêmement rapidement. Dans aucune maternité, il n'y a personne qui n'a accouché dans sa chambre. Tu vois, je viens de faire la phrase à l'envers. On a régulièrement chez nous des femmes qui ont dit bon, on passe vous voir tout à l'heure et qui tout d'un coup appellent en disant je sens qu'il vient. Et je sens qu'il vient deux fois, c'est comme ça.
Et quand elles peuvent appeler, donc tout va bien. Là, le drame, c'est que la sonnette ne marche pas et qu'elle n'a pas le numéro de la salle de garde pour appeler. C'est deux choses qu'on met en place, qu'on vérifie à chaque fois, normalement.
Normalement, oui, on vérifie la sonnette. Quand on installe une patiente dans sa chambre, on vérifie que la sonnette fonctionne. On vérifie que l'appel général fonctionne. On vérifie que la salle de travail, le poste général des sages-femmes fonctionne. Après, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. On appelle la maintenance, et puis c'est comme partout ici. Quand tout d'un coup, vous avez une ampoule qui ne fonctionne pas, vous, au bout de 3 jours, ils ne sont toujours pas venus.
Ici, généralement, ça va assez vite.
Peut-être à côté.
Ouais, c'est ça. Une question pour vous, Eugénie, regardez.
Bonjour la maison des maternelles. J'ai une petite question pour mon deuxième accouchement. Je suis enceinte de jumeaux au 8e mois. Et le premier bébé qui doit sortir est en siège. Donc, je voulais savoir quelles étaient toutes les conditions qui devaient être réunies pour pouvoir accoucher par voie basse. Merci.
Alors, si j'ai bien compris, elle a déjà accouché une fois.
Oui, visiblement. Bon.
Donc, a priori, il faut voir le gabarit du premier. Il y a des maternités pour lesquelles le fait d'avoir le premier en siège est directement une césarienne. Bien. Pourquoi ? Parce qu'on a peur que si le premier est en siège, donc la tête est au-dessus, si le deuxième a la tête dans l'autre sens, il y ait ce qu'on voit dans des vieux livres qui est l'accrochage des mentons. Or, ça ne se produit que si c'est une grossesse avec avec un placenta, avec les deux enfants qui tirent dessus, voire éventuellement les deux enfants dans la même poche, mais là on est plutôt en mode césarienne directe. Voilà, après, ça dépend des accoucheurs, de leurs habitudes. Chez moi, c'est à chaque fois qu'il y a un bébé qui se présente en siège en premier pour des jumeaux, il y a un débat qui va durer, mais comme le recrutement des obstétriciens dans mon service se fait avec des gens qui aiment faire les sièges, voilà. Mais siège premier, il y a beaucoup qui aiment
pas. On peut la rassurer, je veux dire, si les voyants sont au vert, c'est-à-dire la radio du bassin est bonne, si le bébé s'engage bien,
si l'équipe dans ses protocoles, dit « j'accepte de faire un siège premier dans des jumeaux ». Et si l'ensemble de l'équipe dit non, il y a une maternité à Paris dans laquelle le siège égale césarienne. Il y a d'autres maternités dans le Nord-Est pour lesquelles, so what, le premier est en siège.
Vous, c'est plus so what. Hein.
Moi, je suis plus so what. Et c'est pour ça que j'aime bien quand les gens de ces maternités-là viennent travailler chez moi. Oui. Voilà. Mais sans raconter, parce que je sais qu'on fait très court, j'ai fini dans le bureau du patron quand j'étais assistant à Tenon, parce qu'une de ces privées qui a couché de numéro 3, numéro 4, il avait programmé la césarienne parce que les deux étaient en siège. Elle est arrivée sur ma garde, le premier arrivait. Donc, je suis allé doucement vers le bloc. Une fois que le premier était sorti, le deuxième est sorti.
J'ai dit, ce serait dommage d'aller au bloc aussi. Oui.
Mais j'ai quand même fini dans son bureau le lendemain matin.
Vous êtes engueulé.
Ouais.
Alors, on a une question de Léa qui vous dit, le deuxième bébé de Stéphanie est sorti seul par le siège lors d'un accouchement gémellaire classique. Le second jumeau est-il sorti souvent avec l'aide du médecin ou est-ce qu'on peut le laisser descendre seul?
Il y a un grand principe qui n'est pas de moi, mais qui est du regretté Yves Malinas, qui était initialement à Alger puis à Paris. C'est un espèce de père fondateur de l'obstétrie qui nous a dit si le deuxième jumeau ne tombe pas dans ta main, c'est ta main qui lui tombe dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le deuxième jumeau arrive directement, tant mieux. Si le deuxième jumeau n'arrive pas directement, on va l'aider à descendre. Donc on va rompre la deuxième poche des os. Si la tête n'est pas loin, on va guider la tête. Ce n'est pas très difficile. Et si ça ne se passe pas de façon simple, on va aller chercher les pieds. On va lui faire faire une culbute et on va le sortir par les pieds. Voilà, donc version grande extraction, c'est un classique qu'il faut savoir, sinon on ne fait pas d'obstétrique.
J'aime bien vous raconter ça comme si vous racontez comment on change une roue. J'adore ça, c'est presque facile.
Mais c'est facile, il suffit juste quand
il faut juste savoir faire. Quoi.
Voilà, on a nos yeux au bout des doigts. Oui. Donc il y a un moment, je vois pas, j'ai pas de petite lumière, j'ai pas une caméra. Donc il y a un moment, j'ai la main, je sens la tête. C'est pour ça que je ferme les yeux. J'ai le dos. Derrière le dos, il y a les jambes. Tout d'un coup, on va tenir les jambes comme ça, et puis après, on va doucement le sortir. Et comme vous disiez tout à l'heure, on ne va pas se dépêcher de manière à ne pas faire relever les bras. Mais c'est notre boulot.
Garance est enceinte de jumeaux et comme Stéphanie, on lui a parlé d'un ballonnet avant le terme. En quoi ça consiste concrètement et est-ce douloureux?
Alors,
comme on a bien fait les choses, on vous a demandé de venir avec ce qu'on a envie de voir.
Alors, douloureux, c'est désagréable et la notion de douleur est tellement individuelle que je ne peux pas répondre. C'est désagréable. Alors, voilà à quoi ça ressemble. C'est extrêmement simple. On va soit essayer de glisser les doigts jusqu'au col et de glisser cette petite sonde qui est en réalité une sonde urinaire un petit peu plus costaud. Soit on n'y arrive pas, et donc dans ces cas-là, on s'aide d'un spéculum. On va prendre tranquillement la sonde, la faire glisser jusqu'au col. Une fois qu'on a fait ça, et c'est le moment où tout d'un coup vous demandez si ça va marcher, donc je vérifie bien que je l'ai bien vissé. Et là,
on n'est pas dans une salle d'accouchement.
Non, mais tiens, regarde, bien. Si ça t'explose dessus, tu vois.
Et donc, il me menace?
Non, jamais. Bon. Et donc voilà.
D'accord.
Ah oui, d'accord.
À quoi ça ressemble?
Alors, on va pour bien
et donc
voir,
voilà, hop. Je veux bien que tu l'aies. Voilà. Donc dans ces cas-là, on va le gonfler jusqu'à arriver à en moyenne 40 à 50 cm cubes. Une fois qu'on est arrivé jusque là,
on le laisse.
On enlève ceci. On essaie de ne pas mettre de l'eau partout et on va laisser ça dans le col pendant 24 heures. Donc pendant 24 heures, il va y avoir une sollicitation.
C'est
désagréable.
C'est désagréable.
Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais accouché, ça fait mal, mais la perception de la douleur, c'est tellement individuel que je ne sais pas. L'intérêt de ça, c'est que du coup, il y a une sollicitation mécanique, on le met dans le col, on vérifie après qu'on l'ait bien posé, ça c'est dans le vagin, puis ça sort tranquillement.
Ah, le long tuyau reste?
Le long tuyau reste, et donc la dame, là, voilà, regarde, ça c'est la profondeur du vagin, du col, donc il y a ça qui sort de la vulve. Donc c'est assez simple, on le laisse en place jusqu'à 24 heures, de temps en temps il peut se rompre. L'énorme avantage de ça, par rapport aux autres techniques de déclenchement, c'est que ça coûte rien. Enfin, là, j'ai 5 euros de matériel. Quand on utilisait des prostaglandines, on pouvait arriver à des 90, puis si on recommence, ça descend à quelques euros de matériel. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble un ballonnet. Après, pour le retirer, manœuvre inverse, on dégonfle.
On a reçu une autre question de Delphine. Vous allez certainement la comprendre mieux que moi. Est-ce qu'on peut tenter une version par manœuvre externe pour retourner un bébé en siège dans le cadre d'une grossesse multiple? Donc, version par manœuvre externe pour retourner un bébé.
Alors, la version par manœuvre externe, c'est uniquement quand il n'y en a qu'un. C'est-à-dire, quand il est en siège, on peut tenter, en ayant à l'extérieur les mains, de le faire tourner et de lui mettre la tête en bas.
D'accord.
Donc, s'il y en a un qui est en siège, on ne peut pas le tourner comme ça. Par contre, ce dont elle a entendu parler, c'est la version par manœuvre interne dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Ouais.
Théo, un homme qui nous dit « Ma femme attend des jumeaux. Quand elle ressentira les premières contractions, faudra-t-il partir plus tôt à la maternité que pour un seul bébé ?»
Oula.
Oui, c'est une question
basique. Ça change la donne, un ou deux bébés?
En vrai, non, mais plutôt, comme l'accouchement des jumeaux est quand même un accouchement relativement médicalisé, plutôt on sait où on va, mieux c'est.
Vous, ça vous permet de vous organiser, d'avoir un peu plus de temps, j'imagine?
Alors oui, en vrai, la plupart des accouchements des jumeaux sont programmés, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un sur-risque dans les 15 derniers jours et on ne va pas se promener au-delà de 39 semaines. Et globalement, on programme tous les accouchements de jumeaux entre 8 mois et 10 jours et 8 mois et 15 jours, ce qui fait 38-39.
Le terme des jumeaux, c'est 39? Vous vous considérez comme ça?
Mais on ne va pas plus loin. Okay. Le terme, 9 mois pour la sécu, c'est 9 mois pour la sécu, mais il n'y a pas d'obstétricien qui a envie de se promener beaucoup au-delà de 39.
Ça rejoint une question que pose Fanny qui dit qu'en fait, elle est suivie, elle attend des jumeaux et on lui propose, enfin, l'équipe qui la suit veut l'accoucher avant terme. Elle dit quels sont les risques réels si on attend, et ai-je le droit de refuser d'être déclenché du coup à 39 semaines?
Alors, soit je fais pleurer tout le monde et puis on y va, le risque est une surmortalité du deuxième jumeau dans les 15 derniers jours.
Mais au moins c'est clair.
Voilà. Donc on n'a pas envie de... C'est un principe très bête, on sait les risques, on n'a pas envie d'y aller. Voilà, après qu'elle refuse, voilà, une fois
elle
qu'on lui
a
passé...
Ah,
mais on a le droit de refuser tout, on peut faire ce qu'on veut, on est dans un pays relativement libre, n'en déplaise à plein de gens, mais... l'information qui doit lui être donnée est une information éclairée là-dessus. Après, si, ça dépend si c'est une grossesse qui est bicoriale biamniotique, c'est celle-là pour laquelle on va se promener jusqu'à 39, deux placentas, deux poches, deux enfants, ou une monocoriale biamniotique, un placenta, deux poches, deux enfants, avec l'un qui peut, du jour au lendemain, pomper sur l'autre. Mais ces grossesses-là, habituellement, sont suivies dans des centres spécialisés qui gèrent les monocoriales biamniotiques.
Comment ça s'appelle quand il y en a un qui...
Le syndrome... Ça s'appelle transfuseur transfusé.
Voilà.
Il y en a un qui pompe et qui pompe l'autre. C'est-à-dire que celui qui pompe va devenir très gros, pléthorique, et l'autre va devenir tout maigre. C'est un petit peu comme, je sais pas quoi, mangement dans Harry Potter.
Mais ça se voit avant, ça. Enfin, ça se voit tôt, non, j'imagine.
Ça, on le dépiste tôt, on va regarder les quantités de liquide et Doppler, la taille des vessies, etc. Mais on a tous des histoires un peu tristes avec du jour au lendemain. Tout allait bien, madame, on va vous programmer dans 8 jours, dans 4 jours, et il n'y a plus de sang, plus d'images 2 jours après.
Bon, alors, une fois qu'on a dit tout ça, vous réussissez à les convaincre, les femmes qui, comme celles qui posaient la question, n'ont a priori pas trop envie d'être déclenchées?
Alors, généralement, oui, assez facilement. Il faut savoir quand même qu'avec les jumeaux, il y a quand même à peu près 25% de prématurité. Donc, il faut déjà qu'elle arrive à terme, déjà qu'elle passe 8 mois, déjà qu'elle passe 8 mois un quart. Donc, voilà. Et puis, quand on attend des jumeaux, souvent, on a un ventre qui est un peu gros. Et la plupart du temps, c'est...
On est content que ça se termine, quoi.
Quand est-ce que j'accouche, j'en peux plus
Bon, après, là, ce n'était pas son cas, mais l'argument que vous venez de donner, c'est assez
c'est
percutant.
Juste c'est un argument stupidement médical qui est la vraie vie.
Dit comme ça. Madeleine vous demande quelle est la durée moyenne d'un accouchement de jumeaux par voie basse versus la durée pour un seul bébé. Je vais accoucher bientôt de deux petites filles.
Alors, ça, je vais la répondre stupidement. Là, encore une fois, c'est un certain temps. Voilà. C'est des humains. Donc, par contre, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une fois que le premier est sorti, on n'attend pas. Okay, je répète la phrase d'Yves Malinas, si le deuxième jumeau ne te tombe pas dans la main, c'est ta main qui lui tombe dessus. Ouais. Deuxième chose, une fois que le premier est sorti, je n'ai jamais vu un col se rétracter sur mon poing. Donc si on reste à glander un petit peu style une série américaine, où il y avait George Clooney, où tout d'un coup, elle accouche de numéro 1, puis après elle remonte dans sa chambre. Là, tous les gens qui ont regardé ça, voilà, je regarde Anna, c'est... on était tous en train de dire, mais ils font quoi? De même que celle où il y avait la pré-éclampsie, on se dit, mais... elle va pas repartir sur le trottoir? Ah bah si. Donc voilà, on fait.
Ah, c'était débile comme ça, urgence, je me souviens.
Il y a des choses qui étaient bien, mais il y a d'autres choses, c'était. Enfin,
pour on lui ma fait partie, une FS chemillonnant, on va faire passer
Et après, on appelle Benton qui fait 2 kilos d'eau négatif. Non, mais pour revenir sérieusement.
3 litres d'adré.
Voilà, c'est ma pauvre.
3 litres, c'est peut-être un peu.
On l'a perdu, oui, mais c'est pas grave, Agathe, ça va bien se passer. Et non, ça dure un certain temps, c'est évident que ça peut durer plus longtemps quand c'est des premier, que c'est une première grossesse, ça dure moins, CF, ce qu'on a entendu tout à l'heure lorsque la dame a déjà accouché, ou voir comme c'est arrivé il n'y a pas très longtemps chez moi, lorsque c'était 11 et 12 qui arrivaient.
11 et 12 Enfin.
C'est le 11e et le 12e.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça.
Mais c'est assez fréquent dans notre maternité.
Ah oui, les grandes fratries.
Ouais, mais parce qu'il y a tout plein de familles dans le coin qui font plein de bébés.
D'accord.
Le livre s'appelle La famille, d'ailleurs.
Alors, Alex vous demande comment se passe la délivrance en cas d'accouchement de jumeaux ayant chacun leur placenta. Est-ce que le placenta du premier bébé sort avant le deuxième bébé, par exemple?
Non. Une fois que le premier est sorti, on ne va pas sortir le placenta, donc on le laisse. Le cordon est coupé, on s'occupe de sortir le deuxième. Et après, suivant les équipes, on laisse la délivrance se faire. Quand je dis on la laisse, toute délivrance est dirigée, c'est-à-dire qu'il y a de l'ocytocine qu'on injecte pour que les placentas arrivent. On a tendance à l'heure actuelle sur des jumeaux à ne pas mettre uniquement de l'ocytocine, mais à mettre un autre produit qui est la carbétocine, qui est du syntocine en retard. L'ocytocine en retard qui a du coup une demi-vie plus grande. Et puis si ça ne se passe pas dans les 10 minutes, on met la main pour aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'utérus a accueilli des jumeaux, il va avoir tendance à se reposer un peu et à contracter moins bien. Donc on n'a pas trop envie de se retrouver confronté à une hémorragie de la délivrance.
Vous aimez bien les accouchements de jumeaux?
J'adore, je kiffe total. Et la sortie du deuxième jumeau, c'est mon grand pied.
C'est vrai, Anna aussi, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi.
C'est le moment où l'art de l'obstétrique, la médecine est un art et l'obstétrique en est encore un, où on donne tout. C'est-à-dire que le premier est sorti, il ne faut pas dire « ouais, tranquille voilà. ». Non, on doit tout mettre en œuvre pour que le... Il n'y a pas de mi-temps. Pour que le deuxième arrive bien. Parce qu'on sait qu'il y a plus de risques pour le deuxième. On sait qu'on n'a pas envie de faire une césarienne sur le deuxième jumeau. On sait tout ça et on met tout en œuvre, il ne faut pas pousser. Enfin bref, on verticalise, on ne passe pas 3 heures avec l'appareil d'écho pour savoir dans quel sens il est. On a des mains pour regarder dans quel sens il est.
Ouais. Il y a toujours un médecin dans les accouchements?
Obligatoirement. Ouais. obligatoirement. C'est, voilà, c'est un accouchement qui est médicalisé. Il y a souvent un peu de monde dans la salle de naissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sage-femme, généralement deux. Il y a l'interne dans les services qui en ont.
Le pédiatre aussi.
Il y a l'externe. Alors, le pédiatre est présent, mais souvent, il est derrière la porte.
Il est en retrait un peu.
Même que l'anesthésiste est présent, mais derrière la porte. Parce qu'imaginons, il y a déjà la maman, les deux jumeaux, le coparent qui est là. Donc, il y a la sage-femme qui a envie de faire le deuxième jumeau ou pas. Il faut qu'elle se sente ou pas. L'obstétricien qui est à côté, j'ai l'avantage d'avoir des grands bras, donc éventuellement de pouvoir prendre la main par-dessus. Il y a beaucoup de monde et il faut que les élèves sages-femmes soient là parce que si on est dans un service où les jumeaux se font par les voies naturelles, c'est super important à ce moment-là de
former.
Quelle voie. Mmh. C'est comme les sièges. Le siège, c'est un enfant sur 30. Mmh. Il faut savoir les faire.
Alors justement, on a une question d'Angélique. Elle dit « J'attends pas des jumeaux, mais mon bébé est en siège. L'accouchement par voie basse m'angoisse. J'ai peur que la tête reste coincée, par exemple. Puis-je demander une césarienne ?»
Alors, la réponse est oui, elle peut demander une césarienne. Après, une information...
Alors, parce qu'il est positionné
parce que
en siège...
Juste au motif du siège, okay. on discute avant. C'est-à-dire que l'enfant se présente par le siège. Première recommandation, proposer et tenter une version par manœuvre externe. Là, il n'y en a qu'un.
D'accord ? Oui.
Bien. Donc, ça marche ou ça ne marche pas ? De temps en temps, on se dit ça ne marchera jamais et ça marche. Et à l'inverse, on se dit ça va être super facile et ça ne va pas marcher. Ça n'a pas fonctionné, l'enfant est toujours en siège. On évalue le gabarit du gamin, on évalue la taille de sa tête, le reste. Et on fait un scanner du bassin pour évaluer l'endroit dans lequel il va passer. Après, on discute pièce en main avec la patiente en disant, voilà, c'est votre premier, c'est votre deuxième, c'est votre troisième, vous avez un bassin qui est parfait. Le hasard fait que celles qui ont une grosse envie d'accoucher par les voies naturelles, de temps en temps, ont un bassin qui n'est pas top. Et on leur dit, on est vraiment désolé que là, il y a une césarienne d'indication médicale. Après, une fois qu'on a discuté de tout ça, on écoute la patiente. Vous avez des endroits dans Paris où c'est un siège, on ne discute pas, c'est directement une césarienne. Vous avez des endroits où dans Paris, c'est un siège, on dit, so what, c'est un enfant sur 30, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le nord-est de Paris, c'est Robert Debré, parfait. Vous avez un pays qui s'appelle la Suisse, où le fait de faire un accouchement par les voies naturelles sur le siège est proche de la faute. Donc tout ça, ça doit être discuté. Et on discute avec la patiente avec une balance bénéfice-risque. Si elle dit de toute façon, mais je m'en fous de ce que vous me racontez, je veux une césarienne, on a une feuille d'information en disant, voilà, la césarienne, ce n'est pas un jouet, c'est une intervention chirurgicale, il y a plus de risques pour une nouvelle grossesse, il y a un certain nombre de risques avec une césarienne. Et on y va. Voilà. Mais il doit y avoir une discussion un petit peu les yeux dans les yeux, je ne vous la fais pas, je n'ai rien détourné, mais de façon honnête. Voilà. L'avantage d'autres maternités comme la mienne, c'est que je fasse une césarienne ou pas, mon salaire sera identique à la fin du mois.
Oui, ce qui n'est pas le cas dans toutes les maternités.
Je ne sais pas.
Bah, nous, on sait bien.
Il y en a j'ai donné une réponse. Ouais.
Non, mais moi, je la donne. Je me demandais, le scanner, ma question est peut-être bête, mais ouais. on le fait à quel moment ?
Au début du 9e mois, 8 mois plein.
Quand on sait qu'on va vers un accouchement en siège ?
Ouais, c'est-à-dire qu'on tente de verser. Si une fois qu'il est versé, c'est pas la peine de refaire un scanner. On fait aussi un scanner pour les jumeaux, parce que tout à l'heure, on a dit le deuxième jumeau peut éventuellement être en siège, et donc on a envie d'avoir un bassin qui est tranquille. Donc là, on fait le scanner après échec de version, où il y a des femmes qui disent « Non, non, mais vous ne cassez pas les pieds, faites-moi un scanner. »
Parce que oui, la version, ça peut être un peu traumatisant. Donc je pense que
c'est pas agréable.
C'est désagréable. Ouais. En particulier, le moment qui est désagréable, c'est le moment où, avec la main, on va appuyer sur la tête qu'on va empaumer comme ça, puisque vous allez avoir la tête qui est de l'os, la main qui est de l'os, et entre les deux, on va comprimer les parties molles de la dame.
C'est pas douloureux, mais c'est...
C'est désagréable, ça peut être douloureux. De toute façon, une version, ça doit se faire rapidement et ça doit... il ne doit pas y avoir d'échec. Enfin, faut pas s'énerver dessus.
Et ça, c'est l'obstétricien qui fait ça ?
Oui, madame.
On saurait pu être la sage-femme, je ne sais pas.
Non, ça ne fait pas partie de leur décret de compétence.
Et ça va en termes de temps pour obtenir les rendez-vous pour les scanners ? Ma question est très pratique.
Oui, c'est très rapide.
Mais on a des rendez-vous facilement France
dans
l'imagerie, en général, ça va.
Dans les maternités normales, on est branché avec des gens qui font des scanners. Si tout d'un coup, je viens d'échouer ma version à 14 heures avec la sage-femme qui bat, t'es pas dans un bon jour, très bien, j'appelle la radio, soit ils la prennent tout de suite, soit ils la prennent le lendemain matin.
Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Les Maternelles, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter les autres, il y en a plein, il y en a pour tous les goûts, tous les thèmes, on se retrouve demain, quand vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, ou en podcast, ou bien sûr sur France 2, ciao tout le monde.